Bon, donc nous allons écouter la troisième conférence de Douglas Hofstadter qui va continuer à nous parler des analogies et je pense à partir d'aujourd'hui des analogies dans la traduction de la prose et de la poésie. Donc Douglas.
Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour qui a à voir avec moi, mais pourtant, je ne vais pas parler beaucoup de moi-même, je vais parler de moi-même un peu, mais je vais vraiment parler de quelqu'un d'autre qui est tombé amoureux de la même chose que moi, ou de plusieurs personnes qui sont tombées amoureuses de cette même chose. En fait, je vais vous parler de deux œuvres de littérature de Eugène Onieguine de Pouchkine et d'un livre qui a été inspiré par Eugène Onieguine qui a été écrit pendant les années 80 en Amérique, en anglais, par quelqu'un qui s'appelle Vikram Seth et qui a été traduit en français récemment, publié assez récemment en français. Et je vais vous parler des originaux et des traductions et de certaines traductions au moins. Alors, pour moi, cette histoire commence en 1986 quand j'habitais dans la petite ville universitaire américaine de Ann Arbor dans le Michigan. Et un jour, ma mère a lu un compte rendu de ce livre « The Golden Gate » écrit par Vikram Seth, un Indien qui habitait, doctorant, qui était en train de faire son doctorat à l'université de Stanford en Californie, où j'avais grandi. Alors je connaissais très bien le lieu. Et il avait écrit ce roman qui se déroule dans la zone de la baie de San Francisco. Et alors, c'était. Mais ce qui était intéressant en ce qui concerne ce livre, c'était le fait que c'était un roman en vers. Et pour moi, c'était quelque chose d'inouï. Je ne connaissais pas cette idée. J'étais un peu naïf. Et ma mère me l'a donné. Elle me l'a offert comme cadeau. Et je l'ai dévoré. J'adorais énormément ce livre, Golden Gate. Et en fait, j'ai écrit une lettre à l'auteur qui habitait dans, pas ma ville natale, mais la ville où j'avais grandi. Et je lui avais dit que j'allais bientôt me rendre en Californie, à Stanford, où mes parents habitaient, et que ce serait pour moi un très grand plaisir de pouvoir le rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on s'est rencontrés dans une librairie à Palo Alto, en fait, une librairie à laquelle il avait consacré une de ses strophes dans son roman. Et on a parlé pendant une heure ou deux heures, c'était très agréable. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est quand je lui ai posé la question de comment il avait décidé d'écrire un roman en vers, il m'a expliqué qu'il avait été inspiré par une traduction d'Eugène Onieguine faite par quelqu'un qui s'appelait Charles Johnston. Vikram Seth ne parle pas le russe, mais il avait lu cette traduction qu'il admirait énormément, qu'il avait tellement frappé qu'il a été inspiré à écrire son propre roman en vers et qui utilise exactement la même forme de strophe, une strophe qui s'appelle une strophe onieguinienne et dont je vais vous parler longuement. Moi j'étais très surpris et il m'a dit peut-être qu'on peut trouver un exemplaire de ce livre dans cette librairie. Et on est allé à la recherche d'une copie. On l'a très bientôt trouvé. Et il me l'a offert comme cadeau. Alors ça, c'était pour moi un cadeau, un très beau cadeau. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis sur mon étagère et je l'ai laissé là pendant 7 ans. C'était un peu bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. Et puis après, peut-être que ce n'est pas le moment de tout vous raconter maintenant, parce que je pense que maintenant, il faut que je parle du livre de Vikram Seth, et puis après de Jane Onyegin. Non, peut-être pas, parce que maintenant, je vois que mes notes me disent que je dois au moins faire une petite allusion à ce qui s'est passé après. Alors, je vais vous dire un tout petit peu de ça. Alors, il faut que je regarde un tout petit peu mes notes. Bon, alors, 7 ans plus tard, j'étais dans la même librairie à Palo Alto et je parcourais les livres, les étagères, et j'ai trouvé par hasard qu'il y avait une autre traduction de Jane Onyegin par quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Alors, je l'ai sorti de l'étagère, j'ai commencé à le feuilleter un petit peu, et j'ai vu que c'était pas mal comme traduction, alors je l'ai acheté, et je l'ai mis à côté de l'autre. Et alors, les deux livres sont restés ensemble pendant quelques mois, et puis un jour, j'avais proposé à ma femme, de temps en temps, nous nous lisions des romans ou des livres à haute voix. Et alors, on venait de finir quelque chose, alors je lui ai proposé de lire à haute voix ces deux traductions de Jane Onyegin en même temps. C'est-à-dire, moi je lirais une strophe, elle lirait, dans une des traductions, elle lirait la même strophe, dans l'autre traduction, et puis on le ferait deux fois, comme ça on entendrait chaque strophe deux fois par chaque traducteur, 4 fois par strophe, 2 fois par traducteur. Alors l'idée était bonne, elle était partante, alors c'est ce qu'on a fait, et on a découvert que la deuxième traduction qui avait été faite par un Américain qui s'appelle James Phelan, F-A-L-E-N, était bien meilleure, à notre avis, que la première traduction tellement vantée par Vikram Seth. Et ça nous a un peu surpris, mais c'était comme ça, c'était un état de fait. Et donc, un jour, nos enfants étaient très petits à l'époque, et on avait une babysitter qui venait de temps en temps, et il se trouvait qu'elle était russe. Et un jour, on se trouvait dans la cuisine avec elle, et je lui ai dit très simplement, de façon très modeste, j'ai dit « Marina, nous sommes en train de lire Jane Onyegin ensemble, est-ce que tu l'as jamais lu ?» Alors, cette question, si on pose cette question à un Russe, c'est une question idiote. C'est comme si on posait la question à un Américain « Est-ce que vous avez jamais entendu parler de McDo ?» C'est à peu près équivalent. Entendre parler de McDo, c'est avoir lu et connaître parfaitement Jane Onyegin. Et Marina m'a répondu, oui, bien sûr. Je l'ai appris par cœur quand j'étais adolescente. Je connaissais le livre entier par cœur. Et ça, c'était tellement typique. J'ai découvert au fil des ans que c'est vraiment très typique. Tous les Russes ne connaissent pas le livre entier par cœur, mais ils connaissent une trentaine de strophes, peut-être une cinquantaine. Et toutes les strophes sont familières. Chaque vers est familier à chaque Russe. Alors, c'est ça qui m'a vraiment bouleversé et m'a fait comprendre l'importance, en quelque sorte, de ce livre dans la littérature russe. Bon, alors, je voudrais maintenant vous expliquer quelque chose sur la structure de cette soi-disant strophe onyeginienne, mais pour faire cela, il faut que je vous donne quelques petites leçons de rattrapage, de versification. Et à cette fin, je vais utiliser un morceau de Léo Ferré, que vous connaissez peut-être, ou peut-être, c'est peut-être si je le dis, c'est peut-être comme demander à un Russe s'il connaît Jane Onyegin, le piano du pauvre. Bon, alors, ouvrons d'abord ce fichier. Est-ce que je veux vous parler de deux types de rimes qui vous seront familiers, peut-être pas. les rimes masculines et les rimes féminines. Et donc, c'est très, très important pour la structure de gènes, des strophes guinéennes et pour le roman entier. Alors, il faut vraiment comprendre. Et j'ai choisi cet exemple, ce morceau de musique, parce que les rimes féminines jouent un rôle très central dans, dans cette chanson. Alors, vous allez écouter maintenant Patachou qui chante « Si ça marche ». J'espère que ça va marcher. C'est pas très fort, mais écoutez. Un instant, il est éclectique, sonate ou java, concerto, polka, il aime la musique. Bon, alors, c'est E muet à la fin. Ça, c'est ce qui définit en français, pas en anglais, pas en russe, pas en allemand, mais en français, c'est la définition de la rime féminine. Alors, on va maintenant entendre beaucoup de rimes féminines exactement dans ces vers, c'est-à-dire la dernière vers et trois vers avant le dernier vers. Et puis aussi le premier vers et le troisième vers. Alors, pauvre, elle n'accentue pas le E muet, mais elle dit pauvre guimauve. Alors, il y a un E muet et dans le reste des rimes, il n'y a pas de E muet. Alors, il y a deux rimes féminines, c'est-à-dire quatre vers, et on va écouter le reste maintenant de cette chanson pour voir comment ça marche. Que le piano du pauvre est un sou d'un sou. Quand l'amour se sauve, il n'y a pas plus qui s'en fout. Car on n'est pas toujours ni rien, on est éclectique. Que Jules ou bien machin, c'est déjà la fin, mais voilà qu'on y refuse. Que le piano. C'est ici. Voilà. ça, c'est notre petite leçon. C'est le début, au moins, de notre petite leçon dans les rimes féminines et masculines. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Alors, ça, c'est juste une liste et j'ai utilisé une sorte d'encodage par couleur parce que comme ça, on distingue bien entre les rimes masculines et les rimes féminines. Et donc, là, on a une bonne liste. Koufou, chien revient, java, polka. Une rime masculine, ça a à voir avec une syllabe qui est accentuée ou forte. Java, polka, printemps, nos gens, d'ailleurs, cœur, chien, moyen, Paderewski, étui, etc. Toujours, c'est une syllabe, c'est la dernière syllabe du vers qui est accentuée. Tandis que dans le cas d'une rime féminine, c'est la dernière syllabe utilise ou est basée sur un E muet. Et donc, la dernière syllabe accentuée est l'avant-dernière syllabe. Pauvre, guimauve, ou bien pratique, musique, comme ça. Bien sûr, elle accentue le que et le plisse, service pour jouer. Mais en général, la dernière syllabe est moins forte que l'avant-dernière. Et c'est ça qui distingue et qui rend féminine une rime en français. En anglais, en russe, c'est différent. On va voir quelques exemples dans un instant. L'autre partie de cette petite leçon de versification a à voir avec les alexandrins. Parce qu'on va voir, on va parler des alexandrins. Alors, on va prendre un exemple, et j'ai même divisé tous les vers en hémistiches, parce que je pense qu'il faut un tout petit peu parler des hémistiches, des césures. Bon, alors, c'est ce triste poème que Victor Hugo a écrit en quelque sorte à sa fille, mais sa fille qui était morte. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Et notez, c'est intéressant de noter que Hugo utilise toujours une alternance entre rimes féminines et rimes masculines. Campagne, montagne, c'est féminin, pensée. Pour lui, je pense que penser croisé est féminin. Pour nous, penser, il n'y a vraiment pas de son d'un E muet. Mais peut-être pour lui, c'était penser croisé et puis tombe et tombe. Tandis que toutes les autres rimes sont masculines. Attends, longtemps, bruit, nuit, harfleur, fleur. Bon, alors, c'est une alternance parfaite entre les rimes masculines et féminines. Et là, il y a deux césures. Il n'y a pas d'hémistiche. Il y a je ne sais pas comment ça s'appelle quand ça a à voir avec quand ça implique quatre syllabes au lieu de six. Mais je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir. Pardon.
C'est un trimètre romantique.
Trimètre. Merci. Oui, excellent. Sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste et pour moi le jour sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx et de bruyères en fleurs. Alors là, on a toujours 12 syllabes, ou 13, si on compte le E muet à la fin des vers féminins. Mais en général, on a tendance à dire qu'il y a 12 syllabes divisées en deux hémistiches. Et ça, c'est l'alexandrin classique français, où on prononce les E muets au milieu, par exemple, ni les voiles au loin. Et je suis sûr que vous connaissez tous exactement ces règles, mais c'était juste pour vous rappeler ces règles qui sont très importantes dans la versification russe et dans Eugène Onegin. Il n'y a pas de E muet, mais dans The Golden Gate, et surtout dans sa traduction française, on va rencontrer tout ça très bientôt. Bon, alors maintenant, on passe à The Golden Gate, et on va parler des strophes onéguiniennes, la forme précise. Alors, la métrique, c'est pas une alternance exacte, c'est pas les nombres impairs ou les vers pairs et les vers impairs, mais c'est une sorte d'alternance généralisée, c'est-à-dire tout ce qui est en vert, ça veut dire que c'est féminin, tout ce qui est en rouge, c'est masculin. Et comme vous verrez, il y a 8 syllabes pour chaque vers masculin, 9 syllabes pour chaque vers féminin. Et si je vous lisais ça en quelque sorte sans parole, mais juste comme son, comme syllabe, ça ferait quelque chose comme ceci. Et ça, c'est la forme d'une strophe onéguinienne. Ça, c'est la métrique. Je vous ai indiqué aussi les rimes. Alors, c'est AB, AB, ça fait une sorte de... Quel est le mot? Quatrain, c'est juste? C'est le mot juste? Oui, alors c'est une sorte de quatrain. Et puis encore une fois, et un autre quatrain, encore une fois, et chaque quatrain est différent des autres, et puis il y a un couplet à la fin. Mais ce n'est pas comme si, quand on utilise cette forme, on respecte toujours ces divisions. Ce sont des divisions formelles, mais ce n'est pas comme si la sémantique était en phase avec ces sous-strophes, on pourrait dire. Rien de tel. Mais ça, c'est la forme précise d'une strophe onéguinienne. Et maintenant, pour être un peu plus dans les détails. Alors, chaque vers consiste en 4 iambes. Et un iambe, ça veut dire que c'est une syllabe non accentuée suivie d'une syllabe accentuée. De, pour un vers masculin et pour un vers féminin. De. Toujours cette dernière syllabe qui traîne. Et les X majuscules, pour être vraiment très très technique et très précis, ça veut dire qu'on pourrait en principe avoir un accent tonique là, mais pas forcément. X majuscule veut dire que forcément il n'y a pas d'accent tonique. Et ça, ce sont des détails, je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un peu trop... un peu trop pour nous. OK. Alors, les rimes masculines en anglais et en français, par exemple, en anglais, not, pot, that, hat, sound, around. Et j'ai mis en caractère gras la partie qui fait la rime. Alors, le A de around n'a rien à voir avec la rime. C'est juste, ça fait partie du mot, mais ça n'a rien à voir avec la rime. Alors, j'ai mis round en caractère gras. Upset, regret. Et c'est parce que c'est pas upset, c'est upset. L'accent tonique est toujours sur la dernière syllabe. Upset et regret. Et en français, les rimes masculines sont comme peu Dieu, distant, fortement, contraint, alexandrin. Et puis, les rimes féminines, par contre, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Alors, en anglais, formal, abnormal, où l'accent tonique est sur l'avant-dernière syllabe, et la dernière syllabe est identique, et Et il n'y a vraiment pas de rime parce que c'est identique, c'est une identité. Necklace, reckless, parts of, hearts of. Ce sont des exemples de rimes féminines. Et en français, toujours avec les E muets, alors lettre, prêtre, correct, suspect, caniche, lémistiche. K n'a rien à voir, lémi n'a rien à voir, c'est niche et stiche, c'est tout. Ça, c'est vraiment là où se trouve la rime. Et dans l'autre cas aussi, c'est rect et pecte. C'est pas correct et suspect. Oui, ça, ce sont les mots entiers. Mais les parties des mots qui riment, ça, c'est ce qui compte. Et dans chaque strophe oniginienne, il y a cette répartition stable et absolue de ce type. Et alors, les rimes féminines sont toujours sur les vers 1, 3, 5, 6, 9, 12. Toujours et sans exception. Toujours. Alors, AA, CC, EE, si vous voulez. C'est AB, AB. Alors, les A sont féminins. CCDD, les C sont féminins. EFF, EGG, et les E sont féminins. Il faut que vous, au moins que vous le sachiez. Et si vous lisez ou Golden Gate ou Eugène Onegin, il faut que vous vous en souveniez, parce que c'est très central. Bon, et maintenant, on va voir quelques vers de l'original en anglais de Golden Gate. On commence dans l'ordre antichronologique, c'est-à-dire je vous fais connaître d'abord Golden Gate, qui a été écrit environ 150 ans après Eugène Onegin, mais en utilisant les mêmes strophes. Et j'ai choisi deux strophes qui se trouvent tout début du premier chapitre, qui décrivent le protagoniste John. Et je vais vous donner, bien sûr, la traduction française, mais d'abord l'original en anglais, pour que vous familiarisiez avec le son, le rythme, la saveur de ce vers en anglais, tellement calqué sur sur les strophes de Eugène Onegin. John's looks are good, his dress is formal, his voice is low, his mind is sound, his appetite for work's abnormal. A plastic name tag hangs around his collar like a votive necklace. Though well paid, he is far from reckless. Pays his rent promptly, jogs, does not smoke cigarettes, and rarely pot. Eschews both church and heavy drinking. Enjoys his garden, likes to read eclectically from man to bead. A surrogate, some say, for thinking. Friends claim he's grown aloof and prim. His boss, though, is well pleased with him. Et on va directement enchaîner à la strophe suivante. Gray-eyed, blonde-haired, aristocratic, in height, impatience, views and face, discriminating, though dogmatic, tender beneath a carapace of well-groomed tastes and tasteful grooming, John, though his corporate stock is booming, for all his mohair, serge and tweed, senses his life has run to seed. A passionate man with equal parts of irritability and charm, without as such intending harm, his flaring temper singed the hearts of several women in the days before his chaste, ambitious phase. Alors, maintenant on va parler un petit peu du traducteur Christophe Clarot, qui en général préfère qu'on l'identifie seulement comme Clarot. Il a écrit, à la fin du livre, il a écrit une note du traducteur, que je vais vous lire, en forme de strophe oniginienne. Et je pense que ça vous intéressera. Ça vous donnera sa philosophie. Alors, note du traducteur. Et j'ai indiqué à peu près ce qui est intéressant dans cette strophe. Il a tout à fait respecté, presque, disons, il triche peut-être une fois, mais presque tout à fait, presque parfaitement respecté la division en 6 plus 6, c'est-à-dire deux hémistiches. Disons-le tout de go, devant le tétramètre, notre décasyllabe est souvent pris de court. La césure l'entrave, il ne sait où se mettre. Il ne sait où se mettre. Il peine à s'élancer. Aussi ai-je eu recours, afin de n'être ni bredouillant ni contraint, à l'immense foulée qu'est notre Alexandrin. La forme du sonnet ne pouvait qu'y gagner sans que l'auteur se sente, espérons-le, lésé. Les puristes diront que j'ai trop malmené le texte original et que ma traduction a pris des libertés qui sont de celles qu'on ne peut souffrir au nom de la fidélité. Mais la langue, pour moi, est tout sauf un caniche, car la mort nous attend au bout de l'hémistiche. Alors, je pense que sa philosophie est résumée en quelque sorte. Cette strophe entière explique sa philosophie de traduction, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de liberté et il a décidé de ne pas respecter la strophe oniguinienne parce que c'est trop concis. Il pense qu'il ne pourrait pas. Tout le contenu de l'original ne pourrait pas tenir dans une strophe oniguinienne, dans une vraie strophe oniguinienne. Alors, il a remplacé ces vers de 8 syllabes ou de 9 syllabes par des vers de 12 syllabes ou parfois 13 syllabes. Mais il a aussi décidé de ne pas respecter cette différence cruciale entre les rimes féminines et les rimes masculines. Alors, vous verrez qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Par coïncidence, 1 et 3, ici, c'est féminin. Mais 5 et 6 ne le sont pas. Et en général, c'est pas que c'est. Et en fait, 13 et 14, ici, caniche et mystiche, ça, c'est féminin. Alors, mais c'est par accident, parce que les deux derniers vers d'une strophe oniguinienne ne doivent pas être féminins. Alors, ça c'est en quelque sorte sa philosophie. Et je dois dire que moi, je suis d'accord avec son idée de prendre beaucoup de liberté, mais pas en ce qui concerne la forme. Je pense que la forme étant le véhicule qui envahit le livre, qui détermine le livre entier, on doit absolument respecter le choix de forme qu'a fait l'auteur. Et à mon avis, il a commis une erreur assez sérieuse ici. C'est dommage, à mon avis. Mais maintenant, on va voir ce que ça donne quand on regarde les traductions de ces deux strophes. Alors, malheureusement, il n'y a pas assez de place. Je ne sais pas si je réduis encore, vous pouvez. Mais est-ce que vous arrivez à lire ou non? Non. OK, alors il faut que je l'agrandisse. Pardon? Comme ça, ça marche? 60, mais il n'y a pas de 60. Pardon? Non, il y a 75. Deux pages, c'est où, quoi? C'est où? En bas, quelque part? Ben moi, je ne sais pas le faire. Oh, c'est ça, ce truc-là? Non. Oui, oui, j'ai déjà fait ça. Ah, deux pages! Ah, excellent! Très bien, OK. Excellent. Bon, OK, alors maintenant, on a les deux côte à côte. John's looks are good. John présente bien, il met des tenues correctes. Il s'exprime à voix basse et son esprit est sain. Sa passion du travail est vaguement suspecte. Un badge avec son nom est pendu à dessein autour de son col blanc, tel un collier votif. Il est très bien payé, ménage ses actifs, n'oublie jamais le terme et court tous les matins, ne fume pas de cigarettes ni de joint, ou alors rarement, ne va jamais prier, ni jamais ne s'enivre inconsidérément, jardine et lit, de tout, du bed et du... Maintenant, ment. Pour faire la rime, il faut dire ment. Un substitut, selon certains, à la pensée. Ses amis le jugent hiératique et distant. Son patron, toutefois, l'apprécie fortement. Et alors, vous pouvez juger pour vous-même le rythme en anglais, la métrique est tellement plus rapide en anglais. C'est vraiment pétillant en anglais.
John's looks are good, his dress is formal, his voice is low, his mind is sound, his appetite for work's abnormal. A plastic name tag hangs around his collar like a votive necklace, though well paid he's far from reckless. Pays his rent promptly, jogs, does not smoke cigarettes and rarely pot. Eschews both church and heavy drinking, enjoys his garden, likes to read eclectically from man to bead, a surrogate, some say, for thinking. Friends claim he's grown aloof and prim, his boss, though, is well pleased with him. On entend chaque rime, parfaitement, en anglais. Parfaitement, les rimes s'entendent. En français, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. John présente bien, il met des tenues correctes, il s'exprime à voix basse et son esprit est sain. Sa passion du travail est vaguement suspecte. Un badge avec son nom est pendu à dessein. On l'entend, mais c'est beaucoup plus dur et d'ailleurs, ça coule beaucoup plus lentement. Et regardons maintenant aussi cette deuxième strophe. Les yeux gris et les cheveux blonds, aristocrate, je vais descendre encore un peu, si je peux, ouais, ben ça. Par la taille et par les traits, comme par l'impatience, comme eux par l'impatience pour compter les syllabes, doté d'un goût très sûr, mais souvent autocrate, on sent sous son armure une tendresse immense. Comprimé par l'étau des mornes conventions, John, malgré son capital en forte expansion, ses vêtements en mohair, en serge et en tweed, comprend bien que sa vie n'est qu'un désert aride. Homme passionné, doté à égalité, d'irascibilité et d'un charme certain, mais ne cherchant jamais à nuire à son prochain, il lui est arrivé de ne pas s'écouter et de réduire en cendres un cœur par trop bavard. La chasteté a mis un terme à ces écarts. Il y a plein de petits problèmes, malheureusement. Par exemple, le nombre de syllabes dans cet avant-dernier vers est de réduire en cendres un cœur par trop bavard. Il y a vraiment 13 syllabes, malheureusement. Et je pense qu'on est censé dire « et de réduire en cendres un cœur par trop bavard ». Et il y a aussi le problème de la rime avec « man ». Il faut dire « ment » pour que ça fasse une rime. Il y a plein de petits problèmes. Et le manque de cette distinction cruciale entre les rimes féminines et masculines, pour moi, est un manque. C'est quelque chose de tellement sérieux, de grave, que ça nuit gravement à l'œuvre entière, malheureusement. Et maintenant, on va. Oui, je pense que ça. Ok, c'est bien. Ça vous donne l'idée de la traduction. Mais une décision faite par, en quelque sorte, analogie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à la strophe onéguinienne en France, qu'est-ce qui joue le rôle de la strophe onéguinienne en France ou dans la littérature française. Peut-être l'idée d'un sonnet en alexandrin. Et je pense que cette analogie est mauvaise, c'est-à-dire c'est une analogie. On ne peut pas disputer, mais c'est, à mon avis, c'est une analogie qui ne marche pas très bien, qui cloche. Et alors, maintenant, on va lire juste un tout petit peu d'une interview que j'ai lue avec Claro. Dans quel environnement avez-vous travaillé? Je relisais beaucoup Raymond Roussel. J'ai lu aussi la traduction française d'Eugène Onieguine par André Markovitch. C'était presque déprimant. Ce qu'il a fait est incroyable. Cela faisait des années qu'il cherchait à le traduire. Et puis, un jour, il était dans le train, il s'est passé quelque chose, il a trouvé le rythme. Et vous? C'est très particulier, mais j'adore travailler avec les contraintes. Ça produit de la liberté une fois qu'on est à l'intérieur. Et c'est intéressant parce qu'il a choisi des contraintes, mais pas les mêmes contraintes, pas les bonnes contraintes, les mauvaises contraintes. Hein, oui, il adore travailler dans les contraintes, mais pas les contraintes. Il a choisi ces contraintes pour qu'elles soient, ben, je ne sais pas quoi, raisonnables pour lui, mais pas, c'était irrespectueux à mon avis ce qu'il a fait. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit d'André Markovitch, parce que André Markovitch a fait une traduction qui est absolument parfaite, à mon avis. C'est-à-dire, si on lit la traduction de Markovitch en français, c'est comme si on lisait l'original en russe. Et il y a une sorte de mythe en Russie qui dit que Pushkin, en général, et certainement Eugène Onegin, est intraduisible. Et je pense que c'est absolument pas vrai. Et comme contre-exemple, je vais vous offrir la traduction, quelques petits extraits de la traduction de Markovitch. Et aussi de quelqu'un d'autre, parce que la traduction de Markovitch n'a pas eu une très bonne réception en France. C'est-à-dire, les gens préfèrent, bon, je ne sais pas s'ils préfèrent, mais ils ont donné un grand prix à notre traducteur pour des raisons que je ne comprends pas. Mais voilà, on va commencer avec des remarques d'André Markovitch lui-même dans sa note du traducteur. Parce qu'il est très éloquent. Il faut dire que Markovitch, il est russe de naissance, il est né à Prague, il a grandi Prague, je sais que ce n'est pas en Russie, mais ses parents étaient russes. Et il a grandi en partie en Russie et aussi en France. La plupart de sa jeunesse ou de son enfance, il a passé en France. Mais il parlait tout le temps avec ses parents en russe. Alors c'est un locuteur natif du russe et aussi du français. Et je l'ai rencontré parce qu'il habite à Rennes et j'admire tant son travail, ce qu'il fait, que je me suis rendu à Rennes et on a passé 2 jours ensemble. C'était merveilleux. Note du traducteur. Quoique cela puisse paraître étrange à un lecteur français, comme d'ailleurs à dire vrai, tout ce qui touche à Pushkin, Eugène Onegin, est l'œuvre la plus célèbre de la littérature, l'œuvre par excellence, le chef-d'œuvre absolu de la langue russe. Mais elle n'est pas que cela. Ou plutôt, l'essentiel n'est pas là. Car Don Quichotte, le Faust ou la Divine Comédie passent aussi pour les chefs-d'œuvre absolus d'une langue, sans être de ces livres d'enfance que l'on sait par cœur, sans savoir même quand on les a appris, que l'on récite avant même d'avoir vraiment pu les comprendre et qui accompagnent toute une vie. Un livre d'enfance qui n'a rien d'enfantin. Un roman en vers à jamais inscrit dans la mémoire collective et qui reste pourtant une énigme, à jamais non fixée et voulue comme telle par son auteur. On continue avec des remarques. Alors, traduire d'oreille. Traduire Onegin m'aura pris au total beaucoup de temps. J'ai commencé en 1978. Quand Efim Etkind m'a demandé d'apporter quelques changements à la traduction de Gaston Perrault, parue, on l'a vu, en 1902, traduction qu'il devait, en l'absence de toute autre version complète disponible, publiée dans l'édition des œuvres de Pushkin, alors en cours. Je n'ai pas arrêté depuis. Pas tous les jours, bien sûr, mais en y pensant certainement tous les jours, le plus souvent persuadé que je n'y arriverais jamais dès lors qu'il s'agissait pour moi de remplacer le texte russe qui m'a bercé dès mon enfance par un texte français. Le déclic s'est fait un beau jour dans un train, comme disait Claro, quand, me récitant distraitement le texte russe, parce qu'il connaissait par cœur, comme un bon russe doit le faire, j'ai soudain entendu, comme en surimpression, des bribes de texte français. Ce brusque sentiment de faire écho à un écho de la mémoire a rendu au poème son statut, ou peut-être sa vertu propre de poème d'enfance, à traduire intérieurement, et m'a donné ensuite la possibilité de poursuivre comme une enquête sur les traces du poème retrouvé. Et les dernières... Et j'ai donc traduit d'oreille, ne notant au crayon qu'une fois que la structure sonore de chaque strophe s'était mentalement formée. Peu à peu, à force de répéter le texte russe, certaines phrases devenaient françaises. Telle expression trouvée, telle rime, telle allitération, qui semblait susceptible d'un écho d'une suite. Quand l'écho se formait toujours mentalement, je prenais le carnet et j'essayais, pour ainsi dire, de tirer les fils pour organiser la strophe, toujours en me répétant le texte russe. Et puis, la dernière chose que je vais vous lire d'André Markovitch, parce que je trouve que c'est tellement poétique ce qu'il écrit. Il fallait que le lecteur outvoie ou par les oreilles des yeux, si importante en poésie, soit en état de suivre sans insistance aucune une structure dont les rimes ne sont que des moments mis en valeur, mais jamais indépendants du reste de la matière sonore. Il fallait donc, écrivant en français ce que j'entends en russe, transcrire cette structure fine, en sachant bien quel abîme ne peut pas manquer de séparer une traduction, quelle qu'elle soit, de ce miracle de simplicité, de grâce, d'harmonie, de légèreté, d'humour qu'est la langue de Pouchkine en russe. Cette langue que l'on retrouve en souriant, bouleversée, toujours surpris depuis la prime enfance jusqu'à la fin de sa vie. Alors ça, c'est une sorte de religion que moi aussi je partage avec André Markovitch. Maintenant, on va regarder le russe, une strophe du premier chapitre, ça décrit aussi Eugène Onegin, le protagoniste du roman. Alors, je vais vous le lire en russe et puis on va regarder quelques traductions. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Ok, si vous connaissez le russe, vous aurez entendu les rimes féminines sur les verbes 1, 3, 5, 6, 9, 12, comme il faut toujours. Sinon, alors vous allez les voir maintenant. On passe directement à la traduction de Markovitch. Et ça décrit Eugène Onegin, c'est-à-dire quand il avait peut-être 18 ans à l'époque de cette description. Nous avons tous acquis nos lettres à la légère, à bout fortuit. Il ne faut pas être grand prêtre chez nous pour avoir l'air instruit. Yevgeny, d'après la censure, de gens sérieux à la dent dure, était savant et vétilleux. Il avait ce talent heureux dans l'entretien, avec aisance, d'avoir pour tout un argument, mais de se taire gravement pour les affaires d'importance et les sourires féminins naissaient à ces bons mots soudains. Alors, lettre prêtre, censure dans dur. Et dans n'a rien à voir avec là, c'est-à-dire c'est une rime supplémentaire de sang et dans, mais la rime féminine c'est sûr et dur. Aisance et importance, mais c'est anse et tense. Et voilà, et le nombre de syllabes est toujours exactement 8 ou 9 selon le type de vers, si c'est féminin c'est 9, si c'est masculin. C'est 8. Et d'ailleurs, c'est iambique. Ça respecte même le rythme de l'original dans tous les détails. Et maintenant, on va passer à... peut-être qu'on va comparer à la traduction faite par Nata Minor, aussi russe, elle a choisi comme Claro, de ne pas respecter la forme précise. C'est-à-dire, elle a totalement négligé la différence entre les rimes féminines et masculines. Il n'y a pas de rimes féminines. Ou s'il y en a, elles sont distribuées au hasard dans la strophe. Au hasard. Par exemple, les deux derniers vers ici, dame, épigramme, c'est dame, épigramme, mais... C'est pas, les deux derniers vers ne sont pas censés être féminins. Okay. Nous étudiâmes de tout un peu n'importe quoi, n'importe comment. Il est facile, grâce à Dieu, dans nos milieux, d'être brillant. gêne, selon la société juge sévère, incontesté, était cultivé mais pédant. Il avait le précieux talent, au cours de ses conversations, de toucher à tous les sujets, légèrement, sans insister, se taire, l'air d'en savoir long, provoquer le sourire des dames par l'impromptu d'une épigramme. Alors, le rythme est beaucoup moins précis et il n'y a pas la différence cruciale qui, pour quelqu'un qui connaît l'original, est tellement importante. Bon, alors maintenant, regardons une autre strophe qui continue dans la foulée. Latin из моды вышла ныне. Так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об ювенале, в конце письма поставить валье. Да, помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли. Но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Alors, maintenant, on va regarder, peut-être pas maintenant, mais dans un instant, une traduction, entre guillemets, faite par Vladimir Nabokov. Alors, la traduction de Markovitch. Le latin est passé de mode. Pour vous le dire en vérité, en latin, quoique sans méthode, il déchiffrait un mot cité. De Cicéron savait deux titres, mettait valet en fin d'épître, et disait, un peu de travers, de l'Énéide, deux, trois vers. Fouiller la poudre des chroniques, la sombre histoire du passé, n'excitait guère sa pensée, mais les récits anecdotiques de Romulus jusqu'à nos jours, il les gardait avec amour. Et puis, Nata Minor, pour vous, encore une fois, donner une petite saveur de sa traduction, qui commence presque de façon identique. Le latin est passé de mode, et pour vous dire la vérité, il en savait encore assez, pas de rime, pour déchiffrer les épigraphes. En fait, il n'y a pas de rime dans ces quatre premiers vers. Mode, vérité, vérité, assez, oui, ok. Il y a deux et trois, mais ça n'a rien à voir, parce que c'est AB, AB, la forme des quatre premiers vers doit être AB, AB, et là, c'est A, B, B, C. Ça n'a rien à voir avec l'original. Il n'y a pas de rime pour mode, pas de rime pour épigraphe. Pour discuter de Juvenal, pour finir ses lettres par Val, qui devrait être Valet, il connaissait, mais de travers, de l'Énéide, de deux ou trois vers, et ne montrait aucune envie de fouiller la chronologie des us et mœurs de la planète, mais il retenait dans sa tête chaque anecdote fait amusant de Romulus à notre temps. Et là aussi, vous voyez que dans les six derniers vers, je vais utiliser A, B, C, mais c'est A, A, B, B, C, C. Ou disons, si vous voulez, c'est E, E, F, F, G, G. Mais ça devrait être E, F, F, E, G, G. E, F, F, E, G, G, c'est E, E, F, F, G, G. Pourquoi ? C'est tout à fait arbitraire. Alors, c'est pas parce que je veux débiner Nata Minor. C'est pas mon but. Mon but, c'est de chanter les louanges d'André Markovitch et de Pushkin, bien sûr. Et maintenant, je vais un peu débiner Vladimir Nabokov. On va parler de Nabokov parce que lui, il avait une philosophie très particulière de la traduction. C'est-à-dire, il a développé cette philosophie lorsqu'il était en train de traduire Eugène Onegin. Il avait commencé son espoir, son désir, son but, son ambition avait été de traduire Eugène Onegin en anglais d'une façon absolument parfaite. Mais il a renoncé à ce but. Et en renonçant au but, il a décidé qu'il fallait en fait aller à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire d'abandonner entièrement l'idée de respecter la forme et de ne respecter que le contenu, et d'une forme vraiment bizarre, et vous allez voir. Alors, voyons ce qu'il a fait avec cette strophe. Latin has gone at present out of fashion. Still, to tell you the truth,
He had enough knowledge of Latin to make out epigraphs, descant on Juvenal, put at the bottom of a letter vale, and he remembered, though not without fault, two lines from the Aeneid. He had no urge to rummage in the chronological dust of the earth's historiography, but anecdotes of days gone by from Romulus to our days, he did keep in his memory.
Alors, comme si ça donnait le goût de l'original, ça c'est le, disons, le, la prétention de Nabokov. Et nous allons voir maintenant ce que a dit Nabokov précisément.
Ok. Peut-être que si je l'agrandis un petit peu. Si je fais, oui, ok, je vais voir quelque chose. Deux pages, je me demande si, oui, ok. Est-ce que vous arrivez à lire? Oui? Ça marche? Au fond? Oui? Au fond? Ok. Ok, en anglais. In transposing Eugene Onegin from Pushkin's Russian into my English, I have sacrificed to completeness of meaning every formal element, including the iambic rhythm, whenever its retention hindered fidelity. To my ideal of literalism, I have sacrificed everything: elegance, euphony, clarity, good taste, modern usage, and even grammar that the dainty mimic prizes higher than truth. Alors, en français, en transposant Eugène Onegin du russe de Pushkin en un anglais nabokovien, j'ai sacrifié sur l'autel du sens tout aspect formel, y compris le rythme iambique, à chaque endroit où son maintien aurait entravé la fidélité. Pour mon idéal du littéralisme, j'ai sacrifié absolument tout. L'élégance, l'euphonie, la clarté, le bon goût, l'usage contemporain et même la grammaire, ces qualités prisées par le précieux rimailleur plus que la vérité, Vladimir Nabokov. Et puis, il continue. My Eugene Onegin falls short of the ideal crib. It is still not close enough and not ugly enough. In future editions, I plan to defowlerize it still more drastically. I think I shall turn it entirely into utilitarian prose with a still bumpier brand of English, rebarbative barricades of square brackets and tattered banners of reprobate words in order to eliminate the last vestiges of bourgeois poesy and concession to rhythm. This is something to look forward to. Mon Eugène Onegin est loin d'être la traduction idéale. Il n'est ni suffisamment proche de l'original, ni suffisamment laid ou moche. Dans les éditions à venir, je le dégrévisserai encore plus radicalement. Je crois que je le transformerai en bloc, en prose utilitaire, à l'aide d'une espèce encore plus chaotique d'anglais, munie de barricades rébarbatives de crochets et de bannières loqueteuses de mots dépravés, afin d'éliminer les derniers vestiges de vers de mirliton bourgeois et de toute courbette devant le rythme qui puisse avoir survécu. Or, voilà une très belle pensée. Une très belle pensée, parce que ce n'est pas suffisamment laid. Je dois rendre ma traduction encore plus laide. Mais à quelle fin? C'est à quelle fin? Pourquoi il a décidé de rendre laid ce roman en vers qui est la couronne, le joyau, le sommet de la littérature russe? Pourquoi il pense que c'est absolument indispensable d'enlaidir au maximum ce roman. Mais c'est ce qu'il a dit. Et ce qui est bizarre, ça c'est la couverture prise bien sûr de Google. Regardez, Alexandre Pushkin, Eugene Onegin, a novel in verse. Mais il n'y a pas de vers là-dedans. C'est pas en vers. L'original était en vers. Comme pour vous donner en quelque sorte le goût de ce que ça pourrait donner. Georges Perec, The Disappearance, a novel in which the letter E never ever appears, translated by Marvin Valid Book,
print once, university press. L'original, c'est là, trois cardinaux, un rabbin, un amiral franc-maçon, un trio d'insignifiants politica soumis au bon plaisir d'un trust anglo-saxon, ont fait savoir à la population par radio puis par placard qu'on risquait la mort par inanition. Alors, three cardinals, one rabbi, an admiral who was also a Freemason, and a trio of insignificant politicals under the thumb of some shady Anglo-Saxon wheeler dealers announced to the French people, first by radio and then by posters, that starvation was imminent. Ça, c'est The Disappearance. Ou bien, par l'auteur Pu Tao, recueil de 100 torts langues chinois. Je sais qu'il n'y a pas de mot pour tongue twister en français, alors il a fallu que je l'invente. Les 100 phrases chinoises les plus impossibles à prononcer, rendues en français pour amuser les enfants de notre pays, traduit par Vikram Vainblood, cette fois, édition du Chasseur, bien sûr. Et alors, lorsqu'on mange des raisins, il faut en cracher la peau, mais lorsqu'on n'en mange pas, il ne faut pas en cracher la peau, etc., etc. Ou bien le livre par Bernadette d'Enrèbe, 100 great French palindromes, 100 droll sentences that read exactly the same, backwards and forwards, translated by Vivian Darkbloom, cette fois by Princeton University Press. Puis maintenant, je... excusez-moi, alors, oui. It's dry. Vous comprenez. My name, vous comprenez. Karine went to Iraq. Karine went to Iraq. Anna drank it in Cuba. While on my way, I turn. Ace, his card, bothered me. Aesop stays here and relaxes. This reptile is rereading Perec. The sick woman peddled poorly because, like Ali, he's got stage fright. Neither palindromes nor rabbits bite themselves. Alors voilà, ça c'est la traduction à la Nabokov pour savourer ces choses en anglais, pour comprendre exactement de ce qu'il s'agit. Alors, un de mes étudiants, une fois quand je donnais un cours sur la traduction, on a étudié les diverses traductions de Eugène Onieguine en anglais, et un de mes étudiants a été inspiré à traduire, réexprimer ses sentiments de ce paragraphe-ci de Nabokov en forme d'une strophe onéguinienne. Et je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir ça. Alors, Nabokov on Onegin by Bradley Ritchie, peut-être encore plus grand. Onegin mind still fails to render great Pushkin's words with perfect prose. To truth must beauty yet surrender before my efforts reach a close. My future drafts must capture meaning without sweet rhythms intervening. From bumpy prose there shall arise forbidding ramparts in the guise of brackets, and from towers flying old tattered banners all composed of thorny words shall be disclosed that hackneyed poesy lies dying. No meaning lost for meter's sake, this quest I yearn to undertake. Ça, c'est Bradley Ritchie. Très, très bien fait, je pense. Et maintenant, OK. Pour terminer, en fait, je n'ai pas vraiment beaucoup parlé. J'aurais dû peut-être vous faire voir. Oui, je vais vous faire voir juste une chose avant de passer à la toute fin. Je vais vous faire voir deux strophes par James Phelan en anglais, parce que c'est le traducteur qui m'a le plus marqué ou le plus impressionné. On pourrait dire que Markovitch, c'est le Phelan français, ou bien Phelan, c'est le Markovitch américain, ou de l'anglais plutôt. La différence étant que Phelan a précédé Markovitch d'environ 15 ans. Alors, je pense qu'il faudrait dire que Markovitch, c'est le Phelan français. Alors, voici ce qu'a fait James Phelan pour la strophe 1-5. We've all received an education in something somehow, have we not?
So thank the Lord that in this nation, a little learning means a lot. Onegin was, so some decided, strict judges not to be derided, a learned if pedantic sort. He did possess the happy fort of free and easy conversation, or in a grave dispute he'd wear the solemn expert's learned air, and kept to silent meditation. And how the lady's eyes he lit with flashes of his sudden wit. Et puis, pour l'autre... The Latin vogue today is waning, and yet I'll say on his behalf, he had sufficient Latin training to gloss a common epigraph, cite Juvenal in conversation, put Vale in a salutation, and he recalled at least in part a line or two of Virgil's art. He lacked, it's true, all predilection for rooting in the ancient dust of history's annals full of must, but knew by heart a fine collection of anecdotes of ages past, from Romulus to Tuesday last. Oui, c'est mignon, c'est très très mignon. Et donc, maintenant... Alors, Phelan, moi je me suis mis en contact avec Phelan il y a pas mal de temps maintenant, peut-être, je ne sais pas, il y a 15 ans peut-être. Et on est devenus amis, on se connaît très très bien, on échange beaucoup de courriels. Et vers le début de notre amitié, il a écrit cette ode lettre, pour ainsi dire, à la louange des contraintes. Every task involves constraint. Et c'est intéressant parce que ça se fait l'écho de ce qu'a dit Claro, mais Claro ne respecte pas tant les contraintes que Phelan. Every task involves constraint. Solve the thing without complaint. There are magic links and chains forged to loose our rigid brains. Structures, strictures, though they bind, strangely liberate the mind. Et alors, moi j'ai pris comme défi l'idée de traduire ce alors, en français. Alors, voici une traduction française pour terminer. Chaque défi veut nous contraindre, mettons-nous-y sans nous en plaindre. Comme par magie, une chaîne qui serre nous sert de sortie de nos ornières. Curieux, certes oui, la force inouïe des formes qui lient libère l'esprit. Voilà, merci beaucoup.